Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un peu plus de 11h sur votre radio locale, c'est en effet le moment de retrouver votre émission littéraire, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui qui se veut modestement un hommage à Christian Bobin. Il nous a quittés en effet le 23 novembre dernier à l'âge de 71 ans, Christian Bobin, colporteur de magie quotidienne, écrivain de la pudeur et de la délicatesse. Il était né le 24 avril 1951 au Creusot, cité de forges et d'acier en Saône-et-Loire, adossé au Morvan. Bobin n'aura jamais quitté ce pays qu'il a vu naître. Il y vivait loin du tumulte, en lisière de forêt, en lisière du monde, au milieu des herbes folles qu'il laissait croître autour de sa maison. D'ailleurs, il écrivait « Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles ». Quelques rappels sur la vie et l'œuvre littéraire de Christian Bobin, premier ouvrage publié en 1977, intitulé « Lettres pourpres ». Et puis en 1991, alors qu'il a 40 ans, il rencontre son premier gros succès littéraire avec « Une petite robe de fête », 270 000 exemplaires vendus. Et puis, il méditait, il observait, il écrivait, il avait aussi connu un grand succès de librairie avec Le Trébat consacré à Saint-François d'Assise en 1992, 400 000 exemplaires et qui recevra d'ailleurs le prix des deux magots. D'autres ouvrages sont restés confidentiels. Il venait de publier un roman aux éditions Gallimard, Le Muguet Rouge. Je cite Christian Bobin, « Je n'ai jamais rien su faire dans le monde que m'asseoir sur les marches d'un poème et mendier ». Il y est souvent question d'ailleurs de chagrins, d'absents qui vous tirent par la manche, de morts couchés dans leur cercueil qui ne répondent plus. Et puis il y avait eu, début octobre, une anthologie d'œuvres choisies intitulée « Les différentes régions du ciel » parue chez Quarto Gallimard, 1022 pages. Les titres de ces livres en disent long sur l'homme. Ils s'appellent « Souveraineté du vide »,« L'éloignement du monde », La présence pure, éloge du rien, éclat du solitaire, l'enchantement simple. La mort est omniprésente dans son œuvre et la douleur et la solitude. Pourtant, lire Christian Bobin ne donne envie que de vivre. Il espérait nous sauver en nous ouvrant les yeux sur la beauté du monde. Je cite Christian Bobin, « Mon Dieu ». Pourquoi avez-vous inventé la mort? Pourquoi avez-vous laissé venir une telle chose? Elle est si douce, la vie sur terre. Il faudra que votre paradis soit éblouissant pour que le manque de cette vie terrestre ne s'y fasse pas sentir. Il faudra que vous ayez du génie pour me donner une joie aussi pure que celle de l'air frais d'une matinée d'avril. Oui, il faudra que vous ayez beaucoup de talent, donc d'amour, pour que dans votre paradis ne vienne aucune nostalgie de cette vie-là, blessée, petite, muette. Parlant de son travail, Christian Bobin disait un jour « Je suis juste un scribe, c'est à peine moi qui écris, je recopie ce que je vois, ce que j'entends dans les silences, ce qui se trouve dans l'air. Mes livres, ce sont des manifestes de libellules. » D'ailleurs, peu de choses le mettaient en colère, mais les errements de notre société l'affligeaient. Les écrans, les sauterelles électriques se sont abattues sur l'Égypte de l'âme, elles dévorent tout. Le matérialisme, Dieu tenait au XVIIe siècle la place qu'aujourd'hui tient l'argent, les dégâts étaient moindres. Alors aujourd'hui, dans ce wagon-livre, nous allons réentendre des extraits d'une conférence que Christian Bobin avait donnée à Vézelay. le 22 décembre 2012, à l'invitation de Laurent Equet, le libraire de Vézelay, la librairie L'Or des Étoiles, rue Saint-Étienne sur la colline éternelle. Et puis vous entendrez l'interview que j'avais alors réalisée avec Christian Bobin le 22 décembre 2012. On l'écoute tout de suite et réécoutons sa voix, réécoutons-le évoquer la vie, la mort et la vie. Christian Bobin.
La vie n'est jamais terminée, si vous voulez, voilà. La vie n'est jamais terminée, elle n'est jamais achevée. C'est plutôt consolant d'ailleurs ça, c'est plutôt espérant. Ça veut dire que quand vous êtes au cercle froid de l'enfer, vous pouvez encore faire un pas et peut-être que ce pas-là va vous en sortir. Parce que c'est pas terminé, même à ce moment-là, c'est pas terminé. Nos visages ne sont pas finis tant que nos yeux ne se sont pas clos. Et nos vies non plus ne se sont pas finies. Et en vérité, je pense même qu'elles se poursuivent après, vous voyez. Donc, le tout de cette vie, c'est juste une phrase qui est en train de s'écrire et qu'on est tous en train... On en serait tous un peu les voyelles ou les consonnes, les lettres, les mots. Vous voyez. Et c'est pour ça que parfois, on pense que ça n'a pas de sens, les choses ou la vie. Mais c'est parce qu'on est la phrase qui est en train de s'écrire. Donc la phrase qui est en train de s'écrire, elle n'a pas de réflexion sur elle-même, elle ne se voit pas, elle n'arrive pas à se lire, elle ne sait pas bien se lire, elle ne peut pas se lire, mais elle est en train de se faire. Et ce dont je peux vous assurer, c'est qu'elle est pleine de sens. Je le sens. Elle est pleine de sens, cette phrase, et qu'il n'y a aucune vie perdue définitivement. Et aucune vie ne finit avant de finir, et elle ne finit pas.
C'est très émouvant de réentendre la voix de Christian Bobin enregistrée à Vézelay le 22 décembre 2012 où il avait été l'invité de la librairie L'Or des Étoiles de Laurent Equet sur la colline éternelle. Et d'ailleurs, je vous propose cette fois-ci d'entendre Christian Bobin finalement ne pas être tellement inquiet concernant la disparition des livres papier. On sait qu'aux États-Unis, un très grand nombre de librairies ont disparu. Eh bien, Christian Bobin pense que justement le livre papier est précieux et qu'il va nous revenir.
Oui, là c'est toute l'histoire d'Internet. Et ça, c'est très difficile parce que y a une chose très simple, c'est que jamais dans l'humanité, quand on a inventé une technique, on est revenu en arrière. Donc au fond, c'est pas la peine de se hérisser ou de lutter contre quelque chose qui est là, qui sera toujours là, qui va se développer. Moi, je vois des signes simplement. Je pense que autre chose peut continuer à subsister peut-être à côté. Je crains, de même que je peux craindre la toute-puissance du Dieu de l'Ancien Testament, je crains aussi la toute-puissance de certaines techniques qui se veulent souples, libératrices, et qui parfois nous privent de sang, d'encre. J'ai reçu il y a quelques jours une lettre d'une traductrice, elle venait de Suisse, cette lettre. C'est quelqu'un qui vient de traduire La Dame Blanche, le livre que j'ai écrit sur Emily Dickinson et qui va paraître aux États-Unis. Et donc c'est quelqu'un, je précise ça pour dire, c'est quelqu'un qui a un rapport avec l'écriture familier, très puissant. Il y a quelques jours, et à la fin de sa lettre, elle me dit, c'est la première lettre que j'écris cette année, que j'écris à la main, ça voulait dire. Que c'est la première fois cette année que je ne passe pas par un mail. Et je trouve que ce sont des signes un tout petit peu... C'est un petit peu dommage, on va dire, simplement. C'est un petit peu dommage. Je pense en fait que l'écriture manuscrite, les livres papier ne sont pas en arrière, ils sont devant nous. C'est-à-dire qu'on va les retrouver et ils vont devenir extrêmement précieux parce qu'ils sont en train de devenir rares, ils sont en train d'être négligés, mais ils vont nous revenir. Ils vont nous revenir. On est dans des basses eaux, on est dans une époque où règne un dogme qui est presque impossible d'aller contre. Parce que ce dogme, je vais l'énoncer, le dogme du pratique. Et c'est un dogme, parce que, après tout, est-ce que tomber amoureux, c'est pratique? On sait bien que non. Est-ce que perdre quelqu'un, c'est pratique? Est-ce que rêver? Est-ce que attendre, c'est pratique? Est-ce que aimer, c'est pratique? C'est facile? Non. Et il y a un dogme qui a engendré cette technique du lisse, du facile, de l'immédiat. Mais c'est pas grave. Laissons ce torrent se faire. C'est vrai qu'il amène des choses dont on peut bénéficier, mais les autres choses dont je parle, maintenant on a rendez-vous avec elles, mais dans l'avenir. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura de plus en plus de place pour des libraires. pour des libraires qui auraient des contacts personnels avec leurs lecteurs, pour des éditeurs qui prendront soin des livres, qui auront le soin de les coudre, de les éditer proprement, de leur donner du temps. Je pense qu'on a rendez-vous avec de très très belles choses et qu'on est dans, dans des temps un petit peu sombres, mais on a rendez-vous avec de très belles choses. Et la certitude que j'en ai, c'est que nous sommes dans un temps sombre. Je sais qu'il y aura un des rosiers bientôt parce que nous sommes en hiver, vous voyez ? C'est une sorte de logique comme ça que j'ai, qui est imparable au fond. Donc les livres en papier, la lenteur qu'ils induisent, qu'ils demandent, le fait de ne pas avoir tout tout de suite, c'est quelque chose qui est précieux pour le cœur, qui est précieux psychiquement et spirituellement et qui reviendra. Et qu'on peut, pour quelques-uns, on peut les préserver et aider à les développer. On est dans une sorte de période, au fond, je dirais, de résistance, un tout petit peu. De résistance, l'oppresseur n'étant pas une figure particulière, l'oppresseur étant parfois nous-mêmes. Ce qui rend le combat d'autant plus dur. Mais je pense que la poésie, par exemple, qui, je le redis, n'est pas un genre littéraire, parce que souvent, quand on parle de poésie, c'est très ennuyeux. C'est décevant. C'est mimi. C'est gentil. Et c'est que gentil. Et c'est faible. Et on a besoin, dès qu'on est jeté dans cette vie, on a besoin de nourriture forte. Dès qu'on est jeté, comme dit Pascal, on est jeté dans le temps, l'espace, on ne comprend rien à cette histoire. On a besoin de nourriture extrêmement puissante. Et je pense que la poésie, mais peut-être faudrait trouver un autre nom, elle est cette nourriture-là, vitale et vivante.
Enregistré le 22 décembre 2012 à Vézelay, c'était Christian Bobin, moine poète de la littérature, tel qu'en a parlé Paris Match dans sa notice nécrologique. En tout cas, ce sont des enregistrements d'il y a plus de 10 ans que nous vous proposons aujourd'hui dans ce wagon livre hommage à Christian Bobin sur Radion. On marque une première pause musicale et on se retrouve juste après, bien évidemment, pour continuer modestement cet hommage à Christian Bobin, ce colporteur des magies quotidiennes.
Le vent triste souffle dans le parc, comme dans un livre que je lus enfant, où une écolière perdue était à garde devant. Il va casser peut-être le tulipier, il fait voir le dessous des feuilles blancs, du vernis du Japon qu'il semble essuyer le vent. Le baromètre est descendu subitement, peut-être que ça va être un ouragan. Il ne peut pas pleuvoir, mais on entend le vent. Dans les livres de prix, monsieur et madame Darvan reviendraient en pressant le pas chez eux, vers un château tout bleu, malgré le mauvais temps. Sortez de ma tête au manoir moisissant, où devaient se passer d'étranges adultères, en des temps tristes en Angleterre. Le vent. Sortez de ma tête, gentilles écolières, qui jouiez à cache-cache dans la clairière, et reveniez vers le grenier sombre à cause du grand vent. Sortez de ma tête, vieux marquis des villes, qui dans des maisons pluvieuses lisiez Virgile, par des fauteuils à oreillettes, par des temps de vent. De ma tête, ma douce tristesse, et va-t'en vers le coteau fané, va-t'en, ou va sur un air un peu chateaubriand, le vent.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Votre émission littéraire sur Radion aujourd'hui qui rend hommage à l'écrivain Christian Bobin, disparu à l'âge de 71 ans. Le 23 novembre dernier, nous allons l'entendre là dans une interview que j'avais enregistrée avec lui le 22 décembre 2012 à Vézelay, où il avait été invité par la librairie vézelienne L'Or des Étoiles, tenue par Francette et Laurent Equet, que je salue. Et bien évidemment, j'avais ouvert notre échange sur le caractère sacré, religieux, cette forte charge culturelle et mystique qui pèse sur ce très beau village de Bourgogne. J'avais donc demandé à Christian Bobin comment il appréhendait le petit village de Vézelay.
C'est un village qui est très beau. Le paysage alentour est beau aussi. Mais je vais vous dire une chose. J'ai parlé tout à l'heure dans ce que vous appelez une conférence de Jean Grosjean, et Jean Grosjean, il dit une chose très, très, très profonde. Ça va passer très vite pour vos auditeurs, mais ça va très loin. Il n'y a pas de sacré parce qu'il n'y a pas de profane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu particulièrement, vous voyez ce que je veux dire, de lieux particulièrement plus riches que d'autres. Je pense que si on a une vérité dans un lien, où que ce soit, à ce moment-là, ce lien est magnifique.
Donc vous ne sacralisez pas Vézelay,
voilà.
Vous ne voulez pas coller à Vézelay cette étiquette de lieu chargé d'histoire et de
chrétienté. Non, parce que ça marche tout seul. Cette affaire, ça marche tout seul, vous comprenez ? La légende, elle est là, l'histoire, elle est là. Voilà, je ne veux pas en rajouter.
Alors, je me suis plongé dans L'Homme Joie, donc votre dernier opus aux éditions de l'Iconoclaste. Vous y faites l'éloge de la nature, des fleurs, la beauté d'un bouquet de fleurs. Quelle est la symbolique alors du bouquet de fleurs ? C'est que la fleur, c'est le symbole de la vie dans toute sa puissance ?
Non, il n'y a pas de symbole. C'est juste, à chaque fois, c'est l'existant. C'est-à-dire la chose qui est là. C'est pas les fleurs en général, c'est cette fleur-là. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est le singulier, c'est le vivant, donc ce qui ne peut pas être imité, ce qui ne peut pas être reproduit, ce qui ne peut même pas, dans un certain sens, être photographié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous me parlez de fleurs, mais les fleurs les plus précieuses, peut-être, parce que les plus fragiles, comme les coquelicots, ça ne passe jamais en photographie, vous n'arrivez jamais. Ce sont des fleurs qu'on ne peut pas ramener chez soi parce qu'elles meurent aussitôt. Et même un photographe, si habile soit-il, n'arrive pas vraiment à rendre leur vérité. Non, il n'y a pas de symbolique. Il y a juste l'existant, le singulier, le vivant.
Vous apportez une nouvelle définition à ce qu'est le poète. Vous dites que le Christ est le premier des poètes parce que c'est celui qui a regardé la vie et la mort en face. Ça, c'est une identité nouvelle du poète. On connaissait le poète, le mage, le voyant. Hein. Hugo parlait du poète mage, la voyance rimbaldienne. Et vous, finalement, tout à chacun est poète, tout être humain est poète, parce qu'il faut bien regarder la vie et la mort en face. Vous regardez la mort en face, vous, Christian Bobin ?
Je ne pense pas que tout un chacun soit poète dans ce sens-là. Je ne pense pas. Ce que j'entends par poésie, si vous voulez, c'est une sorte de puissance de feu du langage. C'est-à-dire, le fait de pouvoir avoir sa vie changée par une parole. Voilà. Et le Christ, de cette façon-là, c'est la moindre des choses que de dire qu'il est poète, parce qu'il a changé la vie et le cœur de milliers, de millions de gens. Hein. C'est juste ça, cette capacité à forcer les cœurs verrouillés. Voilà, c'est ce que j'entends par là.
Dans L'Homme Joie, je vous cite Christian Bobin, « Ce qui me manquera dans l'éternité, ce sont les livres et les lettres. Le reste ne sera que délices dès aujourd'hui sensibles. » Votre vie actuelle n'est faite que d'écriture et de littérature.
En gros, oui. En gros, oui, je peux dire ça.
Alors ne passe-t-on pas à côté de certaines choses ?
Non, pas du tout, parce que l'écriture ou la lecture porte l'attention à son plus haut. Et la vie n'est que ça, n'est qu'une attention portée à ce qui passe, aux choses fragiles qui passent. Donc non, c'est pas du tout c'est pas se priver de quoi que ce soit, c'est pas se couper du monde, c'est pas se retirer, c'est mieux le voir, c'est faire un pas de côté pour mieux voir.
Vous parlez, et vous l'avez dit au cours de cette conférence, vous avez parlé des parents qui sont une forêt pour les enfants, une forêt même inquiétante. Et puis, ce qui est extraordinaire, vous avez dit quelque chose qui m'a énormément interpellé. Vous avez dit, je me demande comment les enfants survivent à leur chagrin. Est-ce que je peux vous demander d'en dire un petit peu plus pour les auditrices et auditeurs?
J'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Je pense que c'est une des plus belles questions qu'on puisse se poser. Je pense qu'on est tous des survivants à un chagrin d'enfance. Qu'on puisse le nommer ou pas, qu'il ait une cause précise ou pas. On est tous en train de survivre à quelque chose qui est au fond inconsolable, mais qu'on ne sait pas nommer. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'il y aurait un élément de réponse, ça serait la beauté. La beauté, oui, les choses belles, simples, calmes. Peut-être elles aident.
La beauté, c'est ce qui sauve. C'est ce qui peut sauver une existence de la médiocrité.
Alors, je pense pas qu'il y ait de médiocrité dans les existences. Je pense que il y a des malheurs, mais des médiocrités. Est-ce que la beauté sauve? Parfois. Mais parfois, il n'y a pas de solution, du moins dans l'instant. Disons, si vous voulez, que il n'y a pas de solution dans la vie parce qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un problème, la vie. C'est juste aller d'un point à un autre, d'un visage à un autre, d'une expérience à une autre. C'est pas rien n'est définitivement trouvé ou gagné.
Dans La main de vie, c'est le titre d'un des 15 textes de l'homme joie, vous faites effectivement l'éloge de la vaisselle. Pourquoi cet éloge de la vaisselle?
Il faut toujours faire l'éloge de ce qui est laissé de côté. Il faut toujours.
Alors, alors vous avez laissé de côté aussi l'Internet, vous n'avez pas. On ne peut pas communiquer avec Christian Bourdin par Internet.
Oui, mais j'en tire pas de fierté parce que c'est pour l'instant, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait que tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, je vais être obligé de m'y mettre. J'en tire aucune fierté. Ça serait idiot. Mais disons que pour l'instant, je peux encore m'en passer, je m'en passe.
Alors on reste dans les éloges. Vous avez aussi fait l'éloge du livre en papier en expliquant qu'ils vont nous revenir. Finalement, il faut conserver ces livres et ne pas les vendre dans les vides-greniers à 50 centimes d'euros. Il faut les garder précieusement. Et vous dites qu'ils vont nous revenir justement comme étant extrêmement précieux. Moi, je ne suis pas convaincu. J'ai peur qu'en France, comme aux États-Unis, il n'y ait plus un jour de librairie.
Oh, je ne crois pas, parce que le sol américain est beaucoup moins... Il est beaucoup moins profond que le sol européen. Et là-dessus, si vous voulez, on est une terre, on est sur une terre qui est pleine d'encre, qui est pleine d'encre. Les religions même sont nourries par l'écriture et par les livres. Donc c'est une histoire très très ancienne qui connaît en ce moment un obscurcissement, mais qui va se poursuivre. Ça j'en suis certain. Et à supposer même que ces choses disparaissent, quelqu'un un jour en connaîtra le manque. Et à ce moment-là, tout reviendra, petit à petit.
Alors vous êtes un grand lecteur, vous nous avez dit ce soir ici, dans la salle de la Cité de la Voix à Vézelay, que vous preniez le temps de lire, que vous lisiez de plus en plus lentement. Et la lecture, j'ai relevé, vous dites, c'est le visage même de la vie.
Je ne saurais pas mieux dire que... Je ne saurais pas mieux dire que ça. Vous savez, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Junger, Ernst Junger, et qui, dans un de ses journaux, ces journaux sont extraordinaires, sont pleins de vie, notamment ce qui s'appelle les journaux parisiens. Il dit qu'un auteur qui commence à se commenter lui-même déchoit, tombe. Vous voyez ? Donc, je ne saurais pas vous dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais vous avez dit quelque chose aussi
qui m'a beaucoup touché. Vous dites que vous avez étudié dans les livres et qu'ensuite vous avez étudié les animaux et aussi les fleurs.
Et les visages.
Et les visages aussi. Alors ça aussi, c'est très intéressant puisque vous dites que chacun de nous est un chef-d'œuvre inachevé.
Ah oui, ça c'est sûr, oui. Ça c'est sûr.
Est-ce que je peux vous demander de réexpliquer au micro de Radion ce que vous avez dit, c'est-à-dire que finalement nous sommes toujours un peu changeants en fonction de ceux qui sont en face de nous.
Alors, si vous voulez,
qui sont en face de nous qui nous modèlent.
Oui, c'est ça. Ben, on se fait les uns les autres, si vous voulez.
Là, vous êtes en train de me modeler comme je suis en train de vous modeler. Non, je ne peux pas vous modeler.
Si, d'une certaine façon, si, parce que je suis sensible à tout, donc perméable à beaucoup de choses. Donc, si. Voilà, il faudra des heures et des heures. On les aura pas, mais comment dire, la vie n'est jamais terminée, si vous voulez. Voilà, la vie n'est jamais terminée, elle est jamais achevée. C'est plutôt consolant d'ailleurs, ça. C'est plutôt espérant. Ça veut dire que quand vous êtes au cercle froid de l'enfer, vous pouvez encore faire un pas et peut-être que ce pas-là va vous en sortir, parce que c'est pas terminé. Même à ce moment-là, c'est pas terminé. Nos visages ne sont pas finis tant que nos yeux ne se sont pas clos. Et nos vies non plus ne se sont pas finies. Et en vérité, je pense même qu'elles se poursuivent après, vous voyez. Donc, le tout de cette vie, c'est juste une phrase qui est en train de s'écrire et qu'on est tous en train... On en serait tous un peu les voyelles ou les consonnes, les lettres, les mots. Vous voyez. Et c'est pour ça que parfois on trouve, on pense que ça n'a pas de sens, les choses ou la vie. Mais c'est parce qu'on est la phrase qui est en train de s'écrire. Donc la phrase qui est en train de s'écrire, elle n'a pas de réflexion sur elle-même. Elle ne se voit pas, elle n'arrive pas à se lire, elle ne sait pas bien se lire, elle ne peut pas se lire. Mais elle est en train de se faire. Et ce dont je peux vous assurer, c'est qu'elle est pleine de sens. Je le sens. Elle est pleine de sens, cette phrase. Et qu'il n'y a aucune vie perdue définitivement. Et aucune vie ne finit avant de finir, et elles ne finissent pas.
Petite question, encore une, et ce sera vraisemblablement la dernière. Je sais, au mois d'octobre-novembre dernier, vous avez répondu négativement à l'invitation du Club des écrivains de Bourgogne. Qu'est-ce qui fait que vous vous déplacez? Je sais que vous êtes très sollicité, Christian Bobin. La dernière fois qu'on vous a vu, c'est, je crois, à la Grande Librairie sur France 5, je crois au début du mois de décembre, chez Bunel. Qu'est-ce qui fait que vous vous déplacez, comme par exemple aujourd'hui à Vézelay?
L'instinct.
C'est l'affect aussi, les affects?
L'instinct, oui, on peut appeler ça comme ça, l'instinct, l'amitié, la sympathie pour tel ou tel libraire. L'instinct, c'est-à-dire, je ne peux pas, comme vous me voyez là, comme je suis là même en ce moment en train de parler à votre micro et comme tout à l'heure j'ai été, je ne peux pas être comme ça sans arrêt et même beaucoup. Donc je choisis. Je choisis et je n'ai pas vraiment de règles de ce choix. Ça dépend comment une demande est faite, ça dépend si c'est plus ou moins près ou plus ou moins loin de chez moi. Je préfère souvent que ce soit plus loin. Et puis c'est juste une question d'instinct et puis d'heure, de quand une rencontre doit se faire, quand quelque chose doit se faire, ça se fait. Sinon, ben peut-être un jour plus tard.
Est-ce que vous aimez ce vers d'Éluard qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous?
Oh, c'est joli, mais je sais pas si c'est un peu plus que joli. Je sais pas comment dire. J'ai beaucoup aimé Éluard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'en pense toujours du bien. J'en pense toujours du bien. C'est un écrivain qui parlait magnifiquement de l'amour et de quoi parler d'autre, au fond.
C'est formidable et émouvant de réentendre Christian Bobin enregistré le 22 décembre 2012 à Vézelay. Il était venu, en effet, rencontrer ses lectrices et ses lecteurs à la Cité de la Voix à l'invitation du libraire Laurent Hecquet, de la librairie L'Or des Étoiles, rue Saint-Étienne, sur la colline éternelle. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
En voyant naître cet enfant, je voyais du fin fond des siècles tous mes ancêtres, tous mes parents. Dans ce petit corps renaître, je revoyais leur maison, aujourd'hui en démolition. Et les buildings essayaient de nous la faire oublier. Par quel hasard ce bel enfant a survécu à toute guerre, guerre de Troie, guerre de cent ans, échauffour et meurtrière? Par quelle fissure du temps s'est-il glissé jusque maintenant, défiant la mort, le fer, le vent, Hérode et les tueurs d'enfants? Que le vent souffle d'Afrique, qu'il souffle du nouveau monde, ce son fusil qui crépite, bazooka, pampan qui gronde, échapperons-nous, dites-moi, à cette grande razzia? Mon enfant, viens dans mes bras, fais dodo tout contre moi. À la croisée de cette route, il y a le nouveau dieu pétrole. On sacrifie sur l'autel des petits enfants à la pelle. Le monde fait harakiri, Babel fait florès aujourd'hui. Le trac du monde se détraque, je ne sais quelle partie prendre face à la grande mitraque d'un monde malade à pierre fendre. J'essaie vite en cachette, avant qu'on ne coupe l'herbette, de bâtir une maison sur le sable de mes chansons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une émission hommage à Christian Bobin. Aujourd'hui sur Radio, Christian Bobin décédé le 23 novembre dernier à l'âge de 71 ans. Il était l'écrivain de la pudeur et de la délicatesse, un amoureux du silence et des roses. Je rappelle d'ailleurs au passage que Christian Bobin a reçu le prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et justement, dans l'extrait de la conférence qui a été enregistrée à Vézelay le 22 décembre 2012, Christian Bobin abordait une forme de définition de l'activité d'écriture, de délimitation de la poésie. Nous l'écoutons. C'était donc le 22 décembre 2012 à la Cité de la Voix à Vézelay. Christian Bobin.
Pour aller plus vite, j'ai failli employer l'expression « travail » et j'ai freiné au dernier moment comme un cheval devant l'obstacle. Je n'ai pas voulu employer le mot « travail » que je n'aimais pas. Et j'ai réfléchi, elle m'a dit « mais alors comment vous appelez quelque chose comme aujourd'hui alors si ce n'est pas votre travail ?» J'ai réfléchi, j'ai dit « bon, on peut appeler ça, j'ai trouvé une solution paresseuse, j'ai dit « on peut appeler ça une rencontre ». Puis ça ne va pas, c'était trop simple, c'était une réponse un peu fatiguée, somnambule. Et puis j'ai dit « c'est un peu long », j'ai dit « c'est une tentative d'être vivant. Voilà. J'essaye d'être vivant en parlant, de ne pas trahir ce que j'aime, d'en parler au plus près de ce que c'est. C'est pour ça que j'en parle comme ça avec image. C'est parce que il me semble que si je vous parlais de manière plus apaisée en termes d'idées ou d'opinions, si vous voulez, on tomberait tous. On tomberait. Et moi, je sais qu'à la fin, j'aurais une tristesse que là, je n'aurais pas. Et je pense que, ben, je n'arriverai jamais à la définir, la poésie. C'est un mot que j'aime de plus en plus. C'est marrant parce que pendant longtemps, je me disais à moi-même, et je disais parfois à l'extérieur, je n'aime pas la poésie. Ça m'ennuie un peu. Maintenant, je dirais presque, je n'aime qu'elle. Mais il faut s'entendre sur le mot, si vous voulez. Il faut s'entendre sur le mot. Je pense qu'elle est un des ressorts de ça, c'est aussi l'empathie. Effectivement, c'est aussi l'empathie. C'est bondir comme un tigre dans le cœur de l'autre, comme ça. C'est aller chercher le cœur de l'autre, en écartant tout le reste, en écartant parfois un peu brutalement tout le reste. Et ça ne peut pas être tout le temps, Il y a des chutes, il y a des déperditions, il y a d'autres moments, si vous voulez. Mais ce sont des moments comme maintenant, qui sont très proches des moments où j'écris, sont les moments les plus intenses. et peut-être où il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu du vrai. Et je pense que si vous rapprochez de vous-même, vous allez vous rapprocher de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus on est singulier, plus on est... C'est pour ça que je ne crois pas trop à des choses qui s'adressent à des millions de personnes. Je suis frappé maintenant du fait que quand on présente quelqu'un, un chanteur, voire même un écrivain, on va parler de millions de disques, de millions de spectateurs, de millions de livres, de choses comme ça. Comme si c'était bien, comme si... c'est parce que, je sais pourquoi on est comme ça. C'est parce qu'on a envie... On ne veut pas mourir. Ça, c'est normal. Moi non plus, je ne veux pas mourir. Personne ne veut ça. Et on a peur de ça. Et pour éloigner cette peur, on a besoin de paravents. Et les paravents de la puissance, c'est impeccable. On croit que c'est impeccable. Si on est puissant, on ne va pas mourir. Si on est glorieux, on ne va pas mourir. Mais ce sont juste des paravents. C'est ce que je ressens comme tel. Et je pense que la poésie, c'est ce qui fait tomber les paravents. Et c'est ce qui va s'adresser au plus grêle, au plus frêle de nous, au plus singulier. Mais si je m'adresse si je trouve le plus singulier en moi, je sais que ça va parler à quelqu'un. Ça va vous parler. Curieusement, ça va parler à quelque chose qui n'aura peut-être aucun rapport en vous, mais qui sera aussi singulier. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que là, c'est une conversation que même les tornades de la mort ne pourront pas éteindre. Ne pourront pas éteindre. Moi, quand je pense à mon père ou quand je pense à des gens qui ont disparu, c'est toujours des singularités qui me reviennent. C'est toujours des... Vous savez, quand quelqu'un disparaît, on va trouver souvent des... On trouve souvent des tout petits gestes, des choses amusantes parfois, des choses très singulières, très, 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 très faibles, un peu comme dans le poème de Coventry Patmore, vous voyez ? Des petits coquillages qu'on met sur la table de chevet. C'est des toutes petites choses. Et ces petites choses, je les aime pas parce qu'elles sont petites, mais c'est parce qu'elles sont, elles sont à un millimètre de la vérité vivante de cette vie. Beaucoup plus que les choses massives, que les millions de ceci, les milliards de cela, les grandes audiences, les grandes choses, les choses puissantes. Voyez ? Moi, je pense vraiment... Je pense qu'on devrait avoir de la peine pour les gens qui sont très puissants.
La dernière phrase que Christian Bobin vient de prononcer, « Je pense que l'on devrait avoir de la peine pour les gens qui sont très puissants », mérite effectivement une profonde réflexion. Cette fois-ci, Christian Bobin évoque un roman qui, au cours de son adolescence, a laissé une trace, une empreinte marquante. Il s'agit du roman de Balzac, « Le Lys dans la vallée ».
Je ne l'ai pas relu depuis. Je préfère peut-être ne pas le relire, mais j'en ai un souvenir qui est le suivant. Une femme suscite l'amour chez un homme jeune. Elle est mariée, elle a des enfants. Et puis, il y a quelque chose comme une sorte de court-circuit comme ça, de pureté qui se fait de l'un à l'autre. Et puis à un moment, elle se sacrifie, elle préfère rester là où elle est, auprès des siens, immobile, jusqu'à même en dépérir et en mourir, me semble-t-il, pour que le jeune homme vive sa vie. Et il aura une vie, je crois, peu... une vie d'échec, puisque une vie de réussite dans le monde, on peut presque dire que c'est une vie d'échec, d'une certaine façon. On peut presque dire ça. On pourrait renverser parfois les choses, vous voyez ? Et je crois que, je ne sais plus si c'est le jeune de Rubempré ou... Enfin, c'est quelqu'un comme ça. C'est que c'est une des figures d'arrivistes qu'on trouve chez Balzac. Elles sont nombreuses. Et qu'on trouve dans nos vies aussi. Elles sont nombreuses. Et ce qui m'avait frappé, le nerf, si vous voulez, l'axe du livre, c'était... Alors, on peut... Alors donc, ça peut être très très beau. Le plus beau de cette vie, ça peut être de se sacrifier. Ça peut être de donner sa vie... De laisser quelqu'un qu'on aime aller, voilà, de le laisser aller, et puis de taire par élégance le chagrin que l'on conçoit, jusqu'à même en dépérir. J'enlève le presque, vous voyez. Ça m'avait beaucoup frappé. Et puis je me souviens, on est injuste quand on est jeune. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un livre de cette collection-là, la collection Poésie Gallimard, qui est apparu dans les années 70. Et c'était un livre d'André Breton, et j'ai mis, avec le côté robespierriste qu'on a tous quand on a 16 ans, 17 ans, on n'est pas poète quand on finit avec une cravate, vous voyez ? Mais j'aime bien aussi cette radicalité-là. J'aime bien aussi. Mais le lys dans la vallée, je crois que c'est l'image de cette femme, d'ailleurs. Elle était le lys de cette vallée. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est un livre d'une facture classique, évidemment. C'est du Balzac. C'est un peu même... Ça, peut-être c'est roboratif, mais le sujet était transpercé, était brûlé par quelque chose de plus grand que lui. Il y avait quelque chose comme ça que j'ai... Puis c'est tellement bizarre, parce qu'on est parfois, touché, sauvé par quelque chose qui n'était pas tout à fait ça, mais nous, on l'a reçu de cette façon-là, à cette heure-là, à ce moment. Il y a des moments pour les livres aussi. De même pour les rencontres, il y a des heures. Et si vous êtes 5 minutes en avance, c'est pas bon. Si en retard aussi, c'est pas bon. Vous voyez ? C'est très... La vie est extrêmement... Elle est beaucoup plus fragile que les fleurs qu'on met dans les serres. C'est pour ça qu'elle est invincible, parce qu'elle est extrêmement fragile. Elle dépend de tellement de choses. Et ce livre-là a beaucoup joué pour moi. Il a beaucoup compté. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup compté. Plus que je ne saurais dire là. Mais beaucoup compté, oui.
Christian Bobin, à l'instant enregistré le 22 décembre 2012 à la Cité de la Voix à Vézelay, Christian Bobin qui nous a quittés le 23 novembre dernier à l'âge de 71 ans. Christian Bobin qui écrivait « Mourir, c'est comme tomber amoureux, on disparaît et on ne donne plus de nouvelles à personne ». Wagon Livre, votre émission littéraire jusqu'à midi sur Radio Ne rend hommage à Christian Bobin. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission spéciale Christian Bobin, juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Goodie, yeah.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Votre émission littéraire rend en effet hommage sur l'antenne de Radion à Christian Bobin qui nous a quittés le 23 novembre dernier à l'âge de 71 ans. Je vous redonne quelques-uns des titres de ses livres. Vous les connaissez sans doute, vous les avez peut-être dans vos bibliothèques et puis on peut toujours compléter sa collection des ouvrages de Christian Bobin. Souveraineté du vide, l'éloignement du monde, la présence pure, éloge du rien, éclat du solitaire, l'enchantement simple et n'oublions pas aussi le très bas et une petite robe de fête. Christian Bobin, au cours de la causerie qu'il avait donnée à Vézelay le 22 décembre 2012, tentait de cerner ce qu'était l'activité de lecture. Christian Bobin.
C'est le visage même de la vie pour moi, la lecture. C'est-à-dire que j'ai commencé à étudier dans les livres, et puis après j'ai poursuivi dans les fleurs, j'ai poursuivi dans les animaux, j'ai poursuivi, et puis évidemment tout le temps, avant même les livres, dans les visages des gens. C'est la lecture est l'activité principale de la vie. Si on entend par lire, faire monter quelque chose vers nous, faire venir quelque chose vers nous, l'apprivoiser en lui donnant tout son sens, toute l'amplitude de son sens. Si on peut définir la lecture comme ça, à ce moment-là, c'est la figure même de l'amour. C'est très proche, au fond, de ce que la philosophe Simone Weil, que j'aime beaucoup, disait en parlant de l'attention. Elle a mis l'attention au centre de sa pensée. Et La pesanteur et la grâce, c'est un très, très, très beau livre aussi. Très, très beau livre. Vital, vivant. Et la lecture, je crois qu'elle en parle d'ailleurs, de la lecture. La lecture, c'est ça. La lecture arrive à enflammer l'inenflammable. Elle arrive à traverser toutes les épaisseurs. C'est pas normal de passer son temps à lire des livres. C'est pas normal. C'est une activité un peu maladie. Mais c'est une maladie heureuse. D'abord, c'est une maladie heureuse qui peut être contagieuse. Mais surtout, ça a plusieurs vertus, mais c'est une vertu seconde, c'est que moi je l'éprouve comme telle. Par exemple, je lis depuis quelques mois, je vais lire 3-4 pages d'un livre, et puis je réfléchis. Je lis très lentement maintenant, de plus en plus lentement. Et j'ai l'impression de passer mes yeux sur une pierre à aiguiser. J'ai l'impression que la lecture aide à nous resserrer et aide à encore mieux voir. Quoi ? La vie non écrite, la vie alentour, les proches, voilà. Ça a mille vertus, un livre, et curieusement, c'est une manière de s'éloigner qui nous permet de nous rapprocher. Peut-être c'est pas toujours le cas, je vais donner un petit coup de patte de chat, mais c'est pas toujours le cas, ou de tigre, j'aimerais mieux que ce soit de tigre d'ailleurs, c'est pas toujours le cas des choses... d'électronique, je vois dans les trains, on voit, ça ressemble à des lucioles un petit peu, ces choses comme ça, qui sont clignotantes, bleu-vertes, et je suis sans doute de parti pris, mais j'ai l'impression que devant un écran, on disparaît, et que le même visage est éclairé différemment quand il est devant un livre. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas la même chose, c'est presque une chose inverse. Il y a une disparition corps et âme de quelqu'un devant un écran, et un livre, je ne sais rien de plus beau que le visage de quelqu'un qu'on aime et qui est en train de lire, voire même le visage d'un ou d'une inconnue en train de lire. Je pense que c'est la plus belle peinture, c'est une peinture vivante qui est en train de se promener dans un train ou dans un jardin public. C'est la plus belle peinture qui soit. Et c'est une présence absente, très belle. Très belle.
Au cours de cet échange avec les lecteurs enregistré en décembre 2012 à Vézelay, Christian Bobin s'intéressait à la manière dont les enfants pouvaient survivre à certains de leurs chagrins. Et dans l'extrait qui va suivre aussi, d'ailleurs, Christian Bobin revient sur le Christ au coquelicot. Mais d'abord, comment les enfants survivent-ils à leurs chagrins ? Christian Bobin.
C'est une des rares vraies questions qu'on peut se poser. C'est les questions qui ne sont jamais étouffées par une réponse. Et j'ai pensé, puisque vous m'avez gentiment invité aussi pour parler d'écrivain, j'ai pensé à un poète anglais qui est peu lu aujourd'hui, pratiquement pas lu, en tout cas en France, qui s'appelle Coventry Patmore, et qui a publié un texte qui s'appelle, je crois, Les Joujoux. Enfin, le texte en français a été traduit comme ça. L'histoire est très simple, c'est un père de famille qui est seul avec son enfant, qui se fâche avec son enfant, qui l'envoie se coucher sans dîner, sans manger. Et puis, une heure ou deux passe, et on a cette scène dans le poème, le père vient dans la chambre de l'enfant pour voir s'il dort, s'il se repose, et il s'aperçoit que l'enfant effectivement dort, mais il voit que sa joue est ravinée par la lumière des larmes, et surtout, sur la table de chevet de l'enfant, il voit toute une série de babioles, de petits coquillages, de petites choses que collectionnait l'enfant et qui étaient d'habitude dans son tiroir. Et il comprend que l'enfant a eu le génie déchirant de se consoler tout seul avec ses petites misères de rien qu'il collectionnait, de se consoler de quelque chose d'inconsolable, c'est-à-dire d'avoir été chassé du paradis, d'avoir entendu la voix de rage greffée dans la voix de son père, qui n'aurait dû être qu'une voix de bienveillance. Et le poème se termine en disant, le père s'adresse directement à Dieu cette fois-ci, et il dit à Dieu, mais nous sommes tous des enfants, ne nous en veux pas de nos misères, ne nous en veux pas de... Nous sommes tous des enfants qui cherchons à nous consoler pauvrement, misérablement, avec nos riens, avec des riens, avec des misères. C'est un très très beau poème de Coventry Patmore. Le Christ au Coquelicot, il a une histoire un peu singulière, et dans ma tête il a changé un petit peu avec le temps, c'est-à-dire je ne sais pas si je saurais l'écrire aujourd'hui. L'histoire singulière, c'est que il est en partie fait de fragments de lettres amoureuses qui n'étaient pas destinées au Christ à l'époque, qui était destiné à une jeune femme, celle que j'appelle parfois, et qu'un livre appelle la plus que vive. Et puis, il y a une correspondance qui m'avait été rendue après la mort de cette jeune femme par les siens. Et puis, j'ai vu des phrases comme ça, et j'ai pensé... Alors, tout le livre n'est pas bâti comme ça, mais le départ du livre, j'ai donné une deuxième vie à des paroles d'amour qui allaient vers un visage féminin. Et tout d'un coup, j'ai vu que ça pouvait très bien aller vers le Christ, sans trahir le premier amour, mais en soulevant ce premier amour, en lui donnant son plus juste éclairage. Donc, c'est une petite histoire secrète de ce livre. Est-ce que je le ferai aujourd'hui, ce livre-là? Je ne sais plus. Parfois, je me dis, il faut... En même temps, il est nommé sans être nommé. Et le Christ est nommé sans être nommé dans le livre. Il est dans le titre, mais je crois qu'il n'est plus dans le texte. Il n'est pas dans le texte. Et je pense que c'est toujours dangereux de nommer directement, parce que la parole, la nomination directe ressemble un petit peu à l'épingle qui traverse le papillon sur le bouchon de liège. Et en l'occurrence, le bouchon de liège, le liège, ce serait la page blanche, la page de papier blanc. Il me semble préférable de dire en frôlant, de dire, bien que je vénère cette parole gitane, mais on est tous faits de contradictions, qui va tout droit, il me semble en même temps préférable peut-être de procéder par allusion parfois, là où c'est le plus brûlant en tout cas, là où les choses importent le plus, de faire venir juste un léger paravent presque transparent de pudeur. Et je ne sais pas si le Christ au Coquelicot, je l'écrirai aujourd'hui, peut-être oui au fond, peut-être qu'il est protégé par sa manière, par les phrases, peut-être. Il faut toujours que les phrases protègent ce qu'elles disent.
Si vous prenez cette émission en cours de route, sachez que vous êtes sur l'antenne de Radion, et plus particulièrement dans l'émission Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale, qui rend hommage en cette fin de matinée à Christian Bobin, qui nous a quittés le 23 novembre dernier à l'âge de 71 ans. Si vous avez manqué le début de cette émission, eh bien écoutez, sachez que vous la retrouvez sur le site d'archives de Wagon Livre via Internet sur le www.yannickpetit.fr. On se retrouve d'ici quelques minutes, toujours pour prolonger notre hommage à Christian Bobin, juste après la virgule musicale que nous vous offrons.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, laine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris viennent vendre leurs habits en librairie, en librairie. Si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Miles Davis qui sonne, Sagrego, tous les Morrison, le Nico.
Il ne faut jamais faire de littérature, il faut écrire, et ce n'est pas pareil. Christian Bobin. Merci en tout cas de vous être associé en cette fin de matinée sur Radion à l'hommage que votre émission littéraire souhaitait rendre à Christian Bobin, qui nous a quittés donc le 23 novembre dernier, à l'âge de 71 ans, Christian Bobin, un colporteur de magie quotidienne, écrivain de la pudeur et de la délicatesse, un écrivain en tout cas amoureux du silence et des roses, dont l'œuvre entière a reçu le prix de l'Académie française. Je rappelle quelques-uns des titres de ses ouvrages. D'abord, il y avait eu très récemment aux éditions Gallimard son dernier roman intitulé « Le Muguet rouge », et puis il y a eu une anthologie d'œuvres choisies de Christian Bobin, c'est chez Quarto Gallimard, sous le titre « Les différentes régions du ciel », plus de 1000 pages, peut-être une belle occasion de cadeau de Noël. Je rappelle quelques-uns des titres extrêmement connus de Christian Bobin, « Souveraineté du vide »,« L'éloignement du monde »,« La présence pure »,« Éloge du rien », Éclat du solitaire, Le très bas, Le Christ au coquelicot, L'enchantement simple ou encore Une petite robe de fête. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de l'émission www.yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 10 décembre, toujours à 11h sur Radion, pour un entretien avec Yves de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, qui a fait paraître aux éditions Plon son premier roman intitulé « Chevalier solitaire ». Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.